Vous écoutez IDFM, il est 18h.
Bonsoir, vous êtes bien sur IDFM Radio dans notre émission Entre Chiens et Loups, l'émission culture d'IDFM. Et ce soir, je vous emmène dans les endroits les plus sombres de l'être humain, dans l'endroit le plus brillant aussi d'Enghien. C'est une émission complètement consacrée à Enghien, puisque dans un premier temps, nous sommes au Centre des Arts à Enghien-les-Bains avec Dominique Roland, son directeur, et Emmanuel Reyatoua, le responsable des expositions. Et nous avons le plaisir de nous trouver dans la parade, d'être peut-être partie prenante des monstres que nous allons visiter ce soir avec vous. Cette exposition vient de commencer, elle se déroulera jusqu'au mois de mars, et vraiment, vous aurez un choc lorsque vous la verrez, mais j'aimerais, pour que vous l'appréciez vraiment, que Dominique Roland et Emmanuel Reyatoua puisse nous la présenter, nous présenter cette galerie. C'est un choix considérable, un exploit, je dirais, de scénographie pour mettre en scène l'ensemble de ces personnages. La parade monstrueuse, ça a des milliers d'années, hein, puisque dans la littérature, tous les contes sont habités de personnages maléfiques, dangereux. C'est bien ça. Et vous les amenez, ces personnages, jusqu'ici, au travers du cinéma, au travers de l'opéra, au travers de toutes les expressions artistiques. Dominique Roland, Emmanuel, vous qui êtes les deux co-commissaires de cette exposition, quel a été le cheminement qui vous a amené à vouloir, comme une sorte de fantasme très ancien pour l'un et l'autre, de vouloir proposer au public cette exposition? Quel a été le chemin dans votre esprit? C'est de l'inconscient ou de la rationalité totale?
L'humanité est traversée de tout temps par à la fois la peur de ces monstres qui hantent nos rêves, qui hantent les esprits et qui inspirent, puisque là nous parlons de l'art, évidemment, qui inspire les compositeurs, qui inspire les écrivains, qui inspire les cinéastes et qui inspire les metteurs en scène. Alors, cette exposition, finalement, si on tire le fil de cette exposition, elle traduit à la fois... elle met en lumière, plus exactement, tous ces artisans qui fabriquent, alors à la fois les costumiers, les fabricants d'objets, de prothèses, alors pour l'opéra, puisque là nous avons des collections qui évidemment traduisent à la fois l'inspiration des compositeurs comme Mozart, comme Berlioz notamment, mais d'autres, Tchaïkovski, d'autres, avec Karloff, etc. Mais également... qui traduisent aussi ce passage de la scène à l'écran, c'est-à-dire au cinéma. Où là, on trouve dans les premiers temps du cinéma, dans les années 1920-1922, en l'occurrence avec Nosferatu de Murnau, eh bien, la traduction déjà d'un cinéma qui montre la représentation de ces monstres, d'une manière, avec Nosferatu en particulier, d'une façon très fragile, très ancienne, très archaïque, si on veut, à travers une ombre chinoise qui est beaucoup plus effrayante que le personnage lui-même de Nosferatu. Et puis, dans cette exposition où nous sommes, nous avons bien sûr également notre film de Murnau, là, qui traite du diable et de Faust. C'est évidemment ce que l'art du 7e art a déjà montré, après ce que l'opéra a fait, évidemment, sur ces sujets. Et puis, se font face à face, là, d'une façon plus récente, le costume porté par Klaus Nomi dans le Nosferatu de Werner Herzog, qui est vient de la Cinémathèque française, et c'est bien le costume qu'il a porté dans le film. Alors, ça traduit, ça se fait face finalement dans l'histoire du cinéma de 1922 pour un film de Murnau et l'autre de 1926, se font face a deux interprétations, une qui est muette, une qui est sonore, cette muette étant très expressive, évidemment.
Alors, nous sommes juste à l'entrée même de l'exposition, donc de la parade monstrueuse, et on parle de cinéma, de Murnau et de Werner Herzog. Emmanuel Reyatoua, qu'est-ce que c'est qu'un monstre ?
Une vaste question, surtout dans une exposition, dans une émission qui s'appelle Entre chiens et loups. Écoutez, la question du monstre, en fait, ce sont des figures singulières que pour le coup, Dominique Rolland a voulu souligner pour cette exposition concomitante au festival PIDS, le festival des effets spéciaux qui va commencer le 25 janvier prochain. Et cette entrée, il l'a choisie justement par rapport à cet interstice, à ces figures de l'interstice. Ce sont souvent des figures interstitielles qui ont un statut indéfini. Et c'est justement ce caractère indéfini qui fait que on les met souvent au bout du doigt, on les montre. Et l'idée ici, c'était de les célébrer, de montrer leur construction et de montrer comment finalement ces personnages, ces personnes, ces êtres sont ici les bienvenus et sont embellis, magnifiés au fil des costumes et au fil des créatures absolument sublimes qui sont montrées ici.
Oui, parce que en effet, c'est un ensemble de métiers qui produisent, qui créent les monstres. Alors et les figures monstrueuses, mais ces figures monstrueuses aussi ont leur qualité esthétique et elles sont toutes assez passionnantes à regarder. Nous allons poursuivre notre visite de l'exposition avec Dominique Rolland et on a une galerie de visages, des gorgones ou des...
Alors oui, tout à fait. Il y a à peu près les chimères, il y a des personnages que l'on retrouve ici, qui sont évidemment une interprétation de Frankenstein ici. Les loups-garous, bien sûr, qui font partie du bestiaire, de tous les monstres, à travers les époques, à travers le temps. Et puis, ici, nous avons un cabinet de curiosité. Alors, ce cabinet de curiosité, il est évidemment incarné par Frankenstein.
C'est terrifiant, hein, quand on entre tout seul dans cette cabine capitonnée, je dois dire qu'on a un choc en voyant ce visage qui parle tout seul dans le noir.
De Mary Shelley, puisque c'était une des premières femmes écrivaines à qui il a été permis, évidemment, de se révéler en tant qu'écrivain, alors que tout le monde voulait signer d'une façon masculine.
Oui, c'est Frankenstein inventé par une femme.
Et là, ici, nous sommes devant un miroir qui devient, évidemment, une vitre à la fois embruée par
des signes, par des signes qu'on ne comprend pas, c'est assez kabbalistique ce qu'on voit, non ?
De la Kabbale. Alors la Kabbale, c'est toujours interprétée, parce que là, nous avons des signes qui traduisent à la fois le mercure, le sel, ce sont des symboles très, très, très puissants. Et puis... nous avons devant notre propre miroir l'apparition d'un personnage.
Alors, un personnage qui vient d'ailleurs
progressivement de nous.
Ah oui, on est entre chien et loup en effet, et là c'est plutôt le côté loup.
Il ressemble beaucoup à Emmanuel, je ne sais pas pourquoi, mais il y avait c'était le côté, l'aspect miroir et regard. Alors là, de notre côté, tout le monde a participé, parce que l'équipe a participé sur cette...
L'équipe du Centre des Arts.
Dans ce lieu qui est un cabinet de curiosité, mais c'est aussi un cabinet de réflexion, parce que dans ce cabinet de réflexion, il y a un thème qui nous intéresse, c'est le thème des vanités. Parce que les monstres sont aussi les vanités. Vanitas, vanitas, vanitatis, tout n'est que vanité.
L'Ecclésiaste.
Évidemment, l'Ecclésiaste, mais également dans l'histoire de la peinture du XVe siècle en particulier, XVIe siècle, où nous voyons des personnages qui, avec beaucoup d'arrogance, c'est le cas dans le Holbein avec
les ambassadeurs
de France à la cour de Hollande,
oui.
Et qui est un exemple avec une anamorphose. Et ces personnages, on a voulu portraitiser finalement des personnes qui nous sont connues, mais leur donner ce rôle. Voilà, et ça fait partie, disons, du parcours.
Voilà, et c'est toute l'ambiguïté qu'on a avec ce monde des vanités qui est à la fois le monde de l'ombre, mais aussi celui qui peut ouvrir à la lumière. Est-ce que c'est ça que vous avez voulu exprimer ?
Alors, oui, puisque c'est aussi la mise en lumière de ces architectes de l'ombre que sont ceux qui fabriquent ces objets, ces costumes, tout cet univers de l'opéra au cinéma et aux effets spéciaux.
Alors, donc, c'est un monde de décor, et un monde de métier de décor. Hein. Alors, Emmanuel, à toi.
Ben, c'est vrai que pour nous, l'objectif ici était d'avoir à recontextualiser toutes ces créatures, tous ces costumes. L'idée n'était pas de les montrer tels qu'on peut les montrer habituellement, d'ailleurs, avec cette lumière d'analyse et cette lumière crue. L'idée ici, finalement, ces costumes ont été conçus pour justement être mis en lumière, pour être retraités au niveau de l'image. Et le grand défi et le grand parti pris de cette exposition a été de recréer finalement un décor digne de pouvoir accueillir
tous ces personnages et tous ces costumes et ces décors.
Tous ces portraits en creux, exactement.
Alors, il y a une scénographie absolument superbe, ça je dois dire que là c'est une réussite totale. C'est un monde auquel le Centre des Arts n'est pas tellement habitué parce qu'il y a énormément de matériaux. On est moins dans l'image, dans le numérique, on est dans la fantasmagorie que l'on peut approcher, peut-être à peine toucher. En tous les cas, on est dans un univers de forme et de matière.
Oui, alors je crois qu'il y a justement ce fil rouge de l'exposition. Il repose à la fois sur notre mémoire et sur les savoir-faire créatifs qui existaient il y a 3-4 siècles et ceux qui aujourd'hui sont maintenant virtuels, qui sont présentés dans la seconde partie de l'exposition et qui sont traités en image de synthèse et qui montrent comment ces personnages sont fabriqués aujourd'hui, mais évidemment avec le numérique. Et je crois qu'il faut passer par toute cette histoire de l'artisanat le plus ancien, mais comme le cordonnier fabrique, comme le costumier va créer évidemment avec son imaginaire, son propre imaginaire, et puis avec toute une équipe, ce qui est le cas pour cette exposition. Et là, moi, je laisserai Emmanuel nous raconter, parce qu'il y a véritablement une mise en scène qui n'est pas celle. Chaque personnage appartient à une histoire dans un opéra différent. Et là, tous ces personnages sont réunis en un seul lieu pour, je dirais, ensemble, représenter finalement ce qui est une somme de tout cet univers qui appartient, là en l'occurrence, à l'opéra.
Fantastique salle, Emmanuel Arayatoua, où on se trouve devant des personnages tiré en effet de différentes œuvres. Alors, vous pouvez nous faire quelques présentations là.
L'idée ici, c'est effectivement de réunir cette grande famille, cette parade de personnages issus plutôt du spectacle vivant. Donc là, on a travaillé réellement avec la question avec l'Opéra National, les collections de l'Opéra National de Bordeaux, mais aussi le Centre National du Costume de Scène à Moulins, qui réunit en fait l'ensemble des costumes de l'Opéra de Paris une fois qu'ils sont utilisés et donc conservés là-bas, et aussi donc l'Opéra National du Rhin. Donc par rapport à ces trois ensembles, on a réuni cette grande famille.
Détaillons un peu ce qu'on voit, parce que les auditeurs puissent nous comprendre de quoi il s'agit.
Et l'idée ici, c'est donc d'avoir mannequiné différents personnages, et notamment on peut découvrir par exemple Barbe Bleue dont le costume est fait de cuir et de plumes, où finalement cette barbe devient, en fait le costume devient une barbe entière, et cette cape de cuir et de plumes est surmontée par un hibou, parce que les monstres ont aussi leur bestiaire, les corbeaux, les hiboux, ils ont aussi les araignées, les tarentules, les anges aussi les habitent. Il y a aussi le issu du ballet La Belle au Bois Dormant, la fée Carabosse, qui a un plastron de fil d'or et de soie, et dont la coiffe est surmontée de plumes qui deviennent des cornes, et les gants qui sont surmontés de griffes. Donc en fait, tout ça, en fait, c'est une réflexion sur un petit peu comment dessiner, comment designer le personnage et lui donner vie, lui faire prendre forme. Et à contre-jour, presque sur le fond, il y a ce loup qui vous guette, le loup qu'on connaît bien, et en même temps, juste à côté, donc des ailes d'ange. Mais en même temps, ces ailes, elles sont doubles. Il y a à la fois Méphistos qui a les ailes repliées sur lui-même, et les ailes de l'amour qui sont des ailes blanches déployées. Donc en fait, même dans la question des plumes, la question des ailes, leur forme, leur couleur, en fait, viennent concourir finalement à la psychologie ou à l'identité d'un personnage.
En effet, on trouve ce vieux rêve de l'humanité, c'est peut-être d'être un oiseau. Est-ce que on est ici dans le monde des ailes, des anges, des démons aussi, et de toutes ces composantes de l'inconscient humain, Dominique Rolland?
C'est la traversée du temps. C'est une traversée du temps et de l'espace. C'est-à-dire ces personnages, surtout quand il s'agit de la scène, nous sommes dans la question du temps et de l'espace, ces personnages, toutes ces représentations traversent différents âges et en même temps entre ciel et terre. Finalement, on est vraiment dans cette métaphore, et en même temps avec beaucoup de puissance que n'ont pas toujours, je vois l'exemple dans La Belle au Bois Dormant, on a souvent des schémas un peu de représentation de La Belle au Bois Dormant. Là, on est sur des costumes qui à la fois sont étranges, mystérieux, intrigants, énigmatiques pour certains.
Oui, parce qu'ils ont un rapport à la mort, ils ont un rapport à l'au-delà, ils ont un rapport avec l'inconnu, ce qui nous échappe. Emmanuel Reyatoua.
La traversée. En fait, c'est ça la question du statut du monde. Je vous disais tout à l'heure, c'était des statuts doubles. Et la question justement ici, c'est à la fois la question, le statut double, c'est sur des personnages qui sont à la fois hommes et femmes. Ce sont des personnages qui sont à la fois mi-humains, mi-animal. Ce sont des personnages qui sont mi-vivants, mi-immortels. Et l'idée ici, c'est de montrer finalement ces personnages à part entière. Ici, on se retrouve devant un personnage, par exemple, d'une veuve qui devient une veuve à part entière, puisqu'en fait sa coiffe devient une araignée, et ce personnage, par son volume, est interprété, alors qu'il s'agit d'un personnage féminin, est interprété par un homme, et en l'occurrence il s'agit d'un costume d'un mannequin homme qui porte tout ce volume et qui porte là. Donc en fait, on est vraiment dans cet intermédiaire, en fait, l'idée d'avoir mi-animal, mi-humain, mi-homme, mi-femme, peu importe, l'idée c'est la construction d'une identité quelle qu'elle soit, mais qui la qualifie de monstrueuse.
Superbe costume. Nous allons continuer notre visite de l'exposition, cette parade monstrueuse, avec Dominique Rolland et Emmanuel Reyatoua. Avant de poursuivre notre visite de l'exposition dans la parade monstrueuse, on va passer un peu de musique, si vous êtes d'accord. On va passer Lucy Antunes, qui sera d'ailleurs au Centre des Arts au mois de mai. Fantastique percussionniste et créatrice, designer musicale, Lucy Antunes. Voilà, nous nous trouvons sur la mezzanine du Centre des Arts avec, là on peut dire qu'on est dans le monde des monstres. On n'a pas très envie de les rencontrer ni à la campagne ni dans les rues. Quels sont ces personnages-là ? Le premier est assez impressionnant, je veux dire.
Eh bien, il s'agit là d'une succession de créatures qui sont issues de films contemporains. Et c'est vrai qu'en montant les escaliers, on découvre une première créature qui est un lycanthrope, donc un loup-garou. Et l'idée ici, c'est d'avoir justement, donc il y a toute une salle à côté qui explique un petit peu comment on approche, comment on arrive à cette figure du loup-garou. Notamment, juste à côté, il y a le visage de Michael Jackson qui a été moulé avec une prothèse de loup-garou dans le film Thriller. Et qui montre un petit peu toute cette réflexion qu'il y a autour de l'élaboration de ce personnage-là. Ici, il ouvre l'exposition du premier étage avec le musée du cinéma de Lyon, un aperçu d'une sélection des collections du musée. Et en fait, au niveau de la scénographie, puisqu'on parlait de la mise en scène tout à l'heure, là, la mise en scène, nous avons voulu vraiment en fait, continuer la mise en scène opératique avec la construction de décors. L'année dernière, pour l'exposition interstellaire, au même moment et de façon concomitante au Festival des effets spéciaux, on avait plutôt tablé sur des décors, des vidéoprojections animées en backdrop, donc en fond sur les murs. Ici, on a vraiment continué la mise en scène avec des décors faits traditionnellement, premier plan, deuxième plan, fond, et des lumières traditionnelles aussi colorées et qui viennent apporter donc une dramaturgie sur tous ces personnages-là.
Très, très intéressant. On a aussi l'impression d'être à la fois dans la bande dessinée et dans l'opéra. Hein, est-ce que toutes ces inspirations, et au cinéma aussi, bien sûr.
Alors, oui,
Dominique Roland.
Le cinéma, évidemment, l'inspiration vient aussi beaucoup de la science-fiction. Et la science-fiction, on retrouve la bande dessinée. Des personnages qui ont été écrits parfois sous forme de. Ce sont des écrivains, des romans. Bon, viennent ensuite des auteurs de bande dessinée. Donc là, on a ce sujet. Alors, le pingouin, évidemment, tout le monde connaît le film de Tim Burton, donc avec Batman. Et là, on a un personnage qui est personnage utilisé pour le film. C'est-à-dire parce qu'il faut concevoir ce qu'on faisait il y a 30 ans, il y a 20, 30 ans, nous n'avions pas de cinéma dans le sens de la production virtuelle. C'est-à-dire la production en 3D, la production. En effets spéciaux. Ouais. Et donc, toutes ces créatures étaient fabriquées en taille réelle, en taille humaine. C'est ce que nous voyons ici avec le pingouin. Et alors, comme l'a dit très justement Emmanuel, ce qui change la donne par rapport à l'exposition de l'an dernier, c'est évidemment la mise en situation en référence à des séquences de films. Alors, c'est ça la nouveauté, et c'est vrai que c'est appréciable tant sur la lumière que dans l'ambiance et dans la mentalité que représente ce personnage. Ils ne sont pas désincarnés, sortis de leur univers. Ce qui est différent, dans le fond, de la scénographie qui est faite sur l'opéra, où tous viennent nous rencontrer finalement, ils sont là, alors qu'ils sont issus de scènes différentes et d'opéras différents. Et puis, après, évidemment, il y a l'Eyeball qui est Del Toro, et puis le Gremlins qui se font face d'ailleurs, et qui est l'animatronique. On dit animatronique parce que c'est aussi ces personnages fabriqués de façon artisanale, mais qui ont été utilisés dans les films eux-mêmes et qui font illusion. Et dans le fond, c'est l'intérêt des effets spéciaux. C'est un art de l'illusion. Et là, nous retrouvons Gremlins dans ce décor qui appartient à une séquence qui est assez illustre, mais qui donne évidemment la sensation de vraiment de réalisme, mais qui va au-delà du réalisme. Dans le fond, c'est l'imaginaire aussi des personnages, comment ils sont fabriqués. Pour fabriquer une créature comme Gremlins, on part de quoi ? Bah, si on veut se documenter, on va aller regarder les gargouilles sur les frontons des églises, les chimères. On va aller regarder tout ce qu'il y avait d'illustrations graphiques, de gravures, de lithographies, de tout ce qui appartient finalement au monde ancien. Et évidemment, on ne réinvente pas l'eau tiède, on recrée un nouveau monde avec de nouveaux objets, avec de nouvelles techniques. Et c'est ce que continuellement ces artisans, ces savoir-faire créatifs, inventent, amènent, changent.
En voyant ces gremlins, ces personnages, je me tourne vers Emmanuel Riatoua qui a aussi la conception esthétique de cette exposition et la conception symbolique également. Il y a une forte tension, je dirais, sur le plan imaginaire de la sexualité. On est toujours entre des formes animales, de formes humaines. Vous disiez tout à l'heure l'ambiguïté entre homme, femme.
L'anthropomorphisme.
Voilà, l'anthropomorphisme. Et on se dit, mais il y a peut-être un pas qui a été fait déjà depuis très longtemps, non, dans notre imaginaire, dans notre fantasmagorie.
Dans notre imaginaire, dans notre fantasmagorie, et tout ça reste de façon extrêmement privée. L'idée maintenant est de pouvoir l'accepter dans notre société.
Donc, non, mais sur le plan esthétique.
Oui, mais simplement, c'est aussi l'idée de sortir du placard tout cet imaginaire et de les mettre justement au service d'histoire et de les montrer ici. Et ce qui est intéressant, c'est que Dominique Roland, tout à l'heure, en faisant la narration par rapport à ce loup-garou, par rapport à ce pingouin, par rapport à ce diablotin, par rapport à ce gremlins, mais tous à un endroit précis, représentent une forme, sont une représentation d'une forme de monstruosité. Ce pingouin est intéressant finalement. Ce pingouin est un enfant abandonné dans un zoo et recueilli par des manchots. Et à un moment donné, reconnaissant finalement ses semblables un jour, c'est-à-dire les êtres humains, se dit, bah, tiens, peut-être est-ce suffisant pour pouvoir créer une famille. Et par son physique et son aspect physique, il est rejeté par son genre et à un moment donné il devient le monstre, il souhaite devenir le monstre que les autres font de lui et attendent de lui. Et finalement c'est la question de la société et du rejet de la différence. Et chacun...
Et Dominique Colorajou
avec Frankenstein, où Frankenstein pour la première fois se voit dans la glace et évidemment avant il n'a pas conscience de sa représentation physique puisqu'il est fait de chair et de corps différents, mais c'est au moment où il y a ce choc finalement que Frankenstein se tourne finalement vers son créateur qui est son seul père finalement et en fait le père le rejette. Donc c'est un peu nous sommes toujours dans ces relations en binôme finalement chez Frankenstein. C'est exact aussi chez Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Nous avons deux personnages, deux entités. Donc c'est aussi ce sujet de la non-acceptation. Ça existe dans beaucoup de sujets dans la société.
On parlait tout à l'heure, Dominique et Emmanuel, de l'intervention des métaux. Des métaux liquides, du mercure, il y a un aspect alchimique dans cette exposition qui nous touche, hein, qui touche quelque chose de profond en nous. Est-ce que dans les personnages qui semblent des monstres aujourd'hui, aussi divers possible, est-ce qu'il n'y a pas une unité qui est traduite, ou la recherche d'une unité peut-être, Dominique Roland ?
Alors, c'est vrai que le cabinet de curiosité, qui est aussi un cabinet qui nous renvoie d'une façon à nous-mêmes, de façon un peu introspective, finalement, c'est pour combattre nos démons. C'est-à-dire, d'une certaine façon, c'est combattre nos démons. Et c'est vrai que le mercure et le sel sont des éléments fondamentaux, comme les vanités, finalement, pour regarder notre relation aussi au monde, à la nature, aux êtres, de façon générale, à la différence. Je dirais, si je parle de différence, je parle de toutes les différences.
Les alchimistes, ce sont des créateurs, et ce sont des créateurs qui sont capables justement de transcender la terre peut-être en beauté et l'idée de partir de rien pour en faire un tout et regardable et surtout admirable.
Eh bien, nous allons poursuivre notre méditation et notre réflexion sur la laideur et la beauté. Est-ce que on s'intéresse peut-être à une installation qui peut aussi être assez désarmante? On a des grandes pattes d'araignée avec un visage qui serait assez proche de l'humain mais qui aurait perdu ses yeux. De quoi s'agit-il, Emmanuel ?
Alors, ici, il s'agit d'un élément issu du film de John Carpenter qui s'appelle The Thing, donc qui est La Chose. Et en fait, l'idée de parler de parades monstrueuses, c'est aussi de parler des créatures qui sortent de l'imaginaire. Donc là, on est vraiment dans l'effrayant. Ici, il s'agit d'un film d'horreur et en même temps d'un film d'horreur qui devient presque un film gore à part entière, où finalement, la question de cette créature, certes, est effrayante. On l'a mis en plus en scène avec des lumières, avec des projections sur les murs. Mais l'idée ici, c'était d'aussi... Enfin, c'est tellement gros. Grotesque, il y a un côté presque comique aussi à avoir cette tête pantelante avec des pattes qui sortent du visage et qui sont issues d'une scène complètement grotesque en l'occurrence qui a marqué aussi, c'est une figure de genre en l'occurrence. Issu de ce film où un groupe de scientifiques se retrouve face à un élément extraterrestre et cet élément extraterrestre voilà grandit et se nourrit du corps pour pouvoir évoluer. Donc là on parlait là encore d'un corps étranger qui vient se loger dans le corps humain. Dr. Jekyll et Mr. Hyde dont on parlait il y a un instant, cet aspect schizophrénique là, il y a je dirais c'est pas la légitimité, mais l'idée de se dire, de se cacher encore derrière le fait de se dire, c'est un corps étranger qui vient en moi, je ne suis pas responsable de cela, finalement, je n'y peux rien, c'est plus fort que moi. L'idée, c'est à un moment donné, voilà, on ne fait qu'un, il y a cette part d'inconnu qui grandit en soi et qui nous échappe.
Voilà, une ouverture sur soi-même, hein. Il y a des choses qui nous échappent, mais qui sont... comme disait Dominique Roland à l'instant, nos propres démons. Y a dans cette exposition aucune chose véritablement choquante, aucune provocation, je dirais. Même si on peut être très, très surpris, quelquefois même un peu terrifié, mais il n'y a que de l'esthétique et du savoir-faire, puisque Dominique Roland et Emmanuel Reyatoua ont bien insisté sur l'aspect métier, fabrication, costume et sculpture, tous ces métiers qui sont d'ailleurs amènent aux effets spéciaux, qui sont ici enseignés d'ailleurs à Enghien, à l'école Artefix, où on a un grand centre de création de designers graphiques et d'effets spéciaux, Dominique Roland.
Alors c'est vrai que nous sommes passés évidemment des personnages, créatures physiques de l'opéra, de la scène, des masques, des représentations, et puis le cinéma qui était fabriqué de cette façon d'ailleurs, avec ces créatures réalisées physiquement, et nous arrivons sur l'ère numérique, où là nous avons des procédés de fabrication, des techniques de création qui sont différentes. Là nous voyons dans le personnage qui est vraiment le personnage principal de Game of Thrones, c'est le dragon. Et bien ce dragon il se fabrique comme on le faisait autrefois quand on sculpte. On commence par le squelette, on commence ensuite par les muscles. C'est-à-dire qu'il y a, ces créatures sont bâties aussi avec des références scientifiques sur les muscles. Et ensuite, il y a ce qui, couche par couche, évidemment, nous amène jusqu'aux textures, c'est-à-dire aux écailles du personnage. Mais là, nous avons ce qu'on appelle un résing, dans un anglicisme, qui montre toutes les étapes de fabrication du dragon. Et ce dragon, on le voit ensuite en situation avec les acteurs, avec les comédiens. Mais les comédiens n'ont pas devant eux un vrai dragon, évidemment. Ils ont une représentation qui est faite souvent par un objet qui permet d'avoir la sensation qu'on touche le dragon. Mais finalement, c'est ensuite le dragon qui est replacé dans le film, mais en raccord évidemment avec ce que les personnages, avec l'interaction entre les acteurs et le dragon.
Oui, on voit très bien l'atelier dans lequel tout ça se fabrique et ça n'enlève rien à la magie de l'image, à la puissance d'évocation de l'image, mais vous mettez aussi en scène en quelque sorte le making of, la manière de travailler de ces ateliers d'effets spéciaux.
Alors là, c'est vrai qu'on est dans quelque chose de très réaliste, c'est-à-dire qu'on fabrique la création à l'image aujourd'hui, et bien évidemment par de ces images de synthèse, mais on arrive à un réalisme, à la recréation de, non seulement du dragon lui-même, mais dans son décor, c'est-à-dire dans l'environnement. On a la mer, on a tous les personnages qui sont ces personnages de rencontre. Et puis, ce qui est aussi un clin d'œil dans l'exposition, c'est de faire se dialoguer. C'est vraiment la création aujourd'hui numérique, telle qu'elle est faite, donc de façon virtuelle, avec des maquillages faits à l'ancienne, dans le film avec Boris Karloff, qui était l'acteur fétiche de Frankenstein, sur la fiancée de Frankenstein de 1935, où on voit sur ces photos qui dans l'exposition, où nous avons une séance de maquillage. Et là, nous travaillons à l'ancienne. C'est-à-dire avec vrai maquillage. Là, nous ne sommes pas en virtuel, nous sommes avec des vrais maquillages, dans une séance de maquillage. Et ce qui est important, c'est l'illusion est là. Et dans le fond, c'est la meilleure façon de, pas de conclure, mais de dire que dans tous ces objets, personnages, créatures, costumes fabriqués, c'est le moment de grâce où les personnages en scène, quel que soit... que ce soit à l'écran ou sur la scène de l'opéra, eh bien, se mettent à vivre devant nous et nous y croyons.
Effectivement, on y croit et on s'y croit. Un très grand merci, puisque là, nous allons rejoindre maintenant monsieur le maire d'Anguin, Philippe Sueur, qui reprend les thèmes de son intervention lors des vœux il y a quelques jours à la pergola d'Anguin. Et on va pas faire un tout petit tour par Cuba. On va écouter un peu de musique. Et je remercie infiniment Dominique Roland, le directeur du Centre des Arts, co-commissaire de cette exposition La Parade Monstrueuse. Merci beaucoup, Dominique.
Merci à vous.
Merci à Emmanuel Reyatoua de nous avoir tous les deux promenés dans cette exposition qui se déroule jusqu'au 26 mars ici au Centre des Arts d'Anguin. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Et nous rejoignons dans un instant Philippe Sueur. Voilà, vous avez beaucoup de choses à voir au Centre des Arts à Anguin. Deuxième partie de cette émission, nous sommes en compagnie de M. Philippe Sueur, le maire d'Anguin-les-Bains, vice-président du conseil départemental, qui vient de donner une allocution officielle auprès des Anguinois et alentours, et qui montre l'intérêt de... Philippe Sueur, pour l'ensemble des questions à la fois internationales, les questions qui concernent la France et qui concernent évidemment Enghien. Quelques mots peut-être sur chacun de ces chapitres qui vous intéressent. Hein, vous avez, un homme d'une telle expérience et pour nous qui vous écoutons, toujours un sujet de réflexion et de méditation. Sur la situation internationale, vous avez indiquer une certaine inquiétude. Est-ce que, et comment elle se manifeste selon vous et pourquoi et quelles sont ces perspectives si on peut en dresser?
Bien entendu, on ne peut pas être totalement serein. Hein, j'ai exprimé une inquiétude en termes de géopolitique. Hein, cette guerre d'Ukraine, douloureuse guerre pour les populations, doit aboutir à s'asseoir autour d'une table, à des négociations. Hein, la difficulté, c'est qu'on ne s'assoit autour d'une table que quand on a des gages des deux côtés. Bon, négocier, c'est à un moment donné, hein, effectivement, trier et choisir. Et là, on voit pas. Hein. En plus, on n'est pas convaincu que toute l'information remonte au président russe. Hein, je l'ai appelé le néo-tsar nationaliste et aveugle tout à l'heure. Hein, mais il ne mesure pas. Hein. Et je n'exclus pas, ça a été dit, je n'y croyais pas. Il y a encore quelques mois, mais l'entrée avec sans doute une armée assez démantelée, assez misérable de la Russie, mais l'entrée en guerre éventuelle, en sachant bien que ce sont là des États qui ont conservé une partie de l'arsenal nucléaire stratégique. Alors je sais bien, on va pas envoyer des missiles avec des capacités de destruction énormes, mais des micro-frappes nucléaires ne sont pas exclues. Mais ça déclenche alors, effectivement, le véritable conflit. Hein. Alors, il y a là beaucoup d'inquiétudes. Je pense à Taipei, Taïwan et la Chine. Les démonstrations militaires de Xi Jinping sont absolument considérables, impressionnantes. Une détermination, on l'a vu dans la réorganisation du bureau politique, le cynisme absolu et la soumission totale de cette population qui, par les moyens numériques, se trouve sous une surveillance accrue.
Vous parlez de la Chine
et là, voyez-vous, autant les États-Unis sont à travers l'OTAN fournisseurs d'armes et puis préparent comme d'habitude leur reconstruction avec les financements et les aides dont ils sont coutumiers et qui profitent généralement à leur propre économie et industrie. Pardonnez-moi, mais je ne fais qu'un constat cynique, mais réel. En revanche, sur l'affaire de Taïwan, là, c'est beaucoup plus grave. Il y a un enjeu mondial beaucoup plus important.
En effet, un autre enjeu mondial que vous avez mentionné, c'est la pandémie. Et puis la conséquence que ça a pour nous, le constat d'une dépendance de la plupart des pays d'Europe sur les médicaments en particulier, Philippe
oui.
Sueur.
Oui, mais ça, c'est hélas les conséquences d'une politique de productivité accrue, assez cynique d'ailleurs, puisque c'est le profit industriel qui a conduit à la délocalisation, y compris pour des grands groupes qui vont depuis, évidemment, les grands groupes pharmaceutiques français, européens, qui ont délocalisé. Le Doliprane, on sait bien, le paracétamol, le Doliprane est une marque, mais le paracétamol n'est pas fabriqué en France, ni en Europe. Bon, il vient de Chine, il vient des Indes. C'est quand même aberrant. Donc, pour les profits de Bayer ou de Sanofi, et quand on voit que Total, dont nous sommes très fiers, Total, première prétendue, pétrolier mondial, qui fait 10% de son produit en France. Donc, nous sommes là sur une mondialisation de l'économie et de l'industrie avec des interdépendances qui créent ensuite des dépendances quand elles sont rompues, ces interdépendances. C'est le cas, là, sur l'énergie, on le voit. C'est la guerre, sans doute, et puis un excès, évidemment, de fièvre sur les marchés des matières premières. Et il y en a qui, sans doute, ne sont pas malheureux dans tout ça, qu'on dû faire des marges colossales sur le dos de qui ? Eh bien, en réalité, toujours des plus démunis. C'est la douleur des Ukrainiens qui sont, eux, dans la détresse, dans la guerre, dans le froid. Et pour les Européens et les Français, et la France se débrouille pas si mal que ça, mais ce sont des surcoûts. Et le gouvernement, à force d'aide, ne pourra pas tout couvrir. Donc il y a là une injustice sociale qui est considérable. Quand je pense, et je l'ai cité, que le général de Gaulle donc avait doté la France d'un outil industriel reposant sur une énergie abondante et bon marché, c'est vrai, c'est toutes nos centrales hydrauliques dont nous serions aujourd'hui incapables de les reconstruire, parce que les associations de défense de l'environnement interdiraient de détruire des vallées, sans doute, mais n'empêche que c'est l'électricité la plus propre, la plus la plus saine et la moins chère. L'hydraulique, c'est le moins cher. C'est 11 euros le mégawatt. Bon, vous vous rendez compte là-dessus. Bon, mais il a doté du nucléaire. Il faut remonter à 80% de nucléaire. On est à 62, 64. Je regarde tous les jours Eco2Mix, qui est le site de RTE, donc le transporteur d'EDF, qui produit et transporte. Mais nous sommes donc dans une dépendance. On achète du courant. C'est inimaginable, bien entendu. Les produits pharmaceutiques, nous en sommes dépendants. Nous sommes dépendants des composants. Nous sommes dépendants des métaux rares et nécessaires. Et même, moi je dénonce que la souveraineté financière de l'Europe n'existe pas réellement. Parce que tous les contrats qui sont négociés en dollars restent sous souveraineté extraterritoriale américaine. Quand BNP a fait effectivement des contrats avec l'Iran, la condamnation à 9,4 milliards de dollars, et BNP a payé aux États-Unis. Et nous n'avons pas de souveraineté en matière de cloud. Il y a des clouds nationaux, souverains.
Oui, pour les données.
Pour les données, la conservation des données. Vous vous rendez compte ? Nous sommes dépendants d'un certain nombre de matières. Les poudres, par exemple, on ne peut pas lancer donc certains missiles ou même nos fusées à courroux sans des ingrédients qui viennent des États-Unis.
Ça nous ramène justement à un propos que vous teniez qui élargissait le problème à la science et à la conscience. Vous avez beaucoup insisté là-dessus et notamment en citant Catherine Bréchignat qui sera bientôt ici à Enghien pour donner quelques conférences. Pourriez-vous nous donner un peu votre point de vue sur l'articulation entre science et conscience, un vieux thème rabelaisien?
Oui, tout à fait. Science sans conscience, c'est que ruine de l'âme. Mais je crois que c'est vrai. Il n'y a pas de science, notamment quand le progrès s'accélère, s'il n'y a pas une éthique. Parce que la science ne peut être qu'au service de l'homme, en harmonie avec la nature. C'est cet équilibre qu'il faut continuellement conserver. En conséquence, il y a un énorme travail pour maîtriser cette fuite en avant qui, scientifiquement et hélas naturellement, peut conduire à des catastrophes. J'ai dit naturellement parce que la nature peut être mise en cause. Alors, c'est le thème en ce moment parce qu'il est réel et qu'on n'est pas loin du point de non-retour de l'enjeu climatique, même si on a une bonne nouvelle concernant la couche d'ozone, bien sûr. Mais il faut ne pas jouer l'apprenti sorcier, en quelque sorte. J'ai cité le philosophe Charles Pépin dans son dernier livre, Une rencontre, une philosophie, qui, lui, parle du syndrome de Dédale. hein, Dédale, hein, ce génial inventeur, le labyrinthe, bien sûr, hein, les machines qu'il pensait, c'était au fond un Jules Verne, hein, avec une sorte de prévoyance, mais de fiction. Néanmoins, le syndrome de Dédale, il peut nous conduire à la catastrophe. Le point de non-retour, quand il y a destruction du vivant, on le retrouvera pas demain. Hein. Bon.
Alors, pardon.
Ben, il faut que ce soit la recherche pure, hein, qui, à un moment donné, doit, sous une éthique, la bioéthique, mais je pense aussi qu'il faut une digitale éthique, hein, une digitale éthique absolument centrale.
Hein, donc, à l'heure des réseaux sociaux, on comprend ce que vous voulez dire.
Absolument. Hein, il faut, par exemple, tout ce qui est aujourd'hui intelligence artificielle et robotique doit être au service de l'homme. Hein. Donc, les juristes s'y intéressent, les philosophes s'y intéressent, hein, bien entendu. Hein, moi, j'ai eu l'occasion de présider, hein, il y a maintenant 3-4 ans, je ne sais plus, c'était un colloque qui avait été consacré justement à l'intelligence artificielle, aux robots et aux droits. Hein, bon, hein, quand on pense que on commence à s'interroger de savoir si un robot n'est pas forcément humanoïde, hein, il peut être une pure machine, hein, est un objet ou bien un sujet. Alors, on n'a pas dit encore une personne, hein, mais il peut devenir un sujet de droit. Hein, un sujet de droit animé, en quelque sorte, artificiellement. Donc, ça pose la question des responsabilités. Responsabilité civile, hein, tout bêtement, voyez-vous. Il y a quelque chose. Donc, nous, aujourd'hui, on a une belle jurisprudence et la loi, hein, sur donc, la responsabilité, hein, du fait des choses et du fait du gardien de la chose. On a de quoi faire, mais que sera demain? Donc il faut, hein, continuellement être en réflexion, en philosophie, pour sauvegarder l'essentiel, l'homme, dans son harmonie avec la nature.
Ça m'amène à soulever la question que vous avez largement évoquée au cours de votre intervention, Philippe Sueur, c'est le rapport de Anguin avec la nature, et il semblerait que la couleur verte puisse vous habiter, oui, tout au moins, oui, dans vos actes, oui, et dans, oui, votre imaginaire.
Oui, c'est vrai que, hein, nous avons... Moi, j'ai toujours eu une attirance pour ce respect. C'est... D'abord, il faut comprendre la nature. Hein. C'est comme dans l'homme, hein, avec les pays qu'on ne connaissait pas, hein, combien de rapprochements, de parrainages, de jumelage ont permis de mieux se comprendre, et quand on se comprend, bah, hein, on se connaît et on va un petit peu plus loin, hein, on reste pas sur les présupposés. Eh bien, la nature, il faut d'abord, elle se dompte pas si bien que ça. Je pense que c'est pas l'idéal de l'homme, même s'il en a eu la capacité et qu'il a aussi la capacité de la détruire, de la déséquilibrer. Mais en Anguin, nous avons d'abord une chance folle. Si nous existons, c'est parce que il y a un lac, et sous ce lac, hein, des couches, hein, de sable de Beauchamp et de colonies de bactéries oxydoréductrices qui transforment l'eau qui circule en fond, hein, de vallée en fond souterrain, hein, dans le profond.
À quelle profondeur?
Ah, sans doute 9, 10 mètres, 12 mètres, un petit peu plus, mais c'est pas très profond. C'est de l'eau sulfatée, de l'eau pluviale qui s'est sulfatée sur les énormes réserves de gypse qui forment les deux collines de Montmorency et de Cormeilles. Hein. Bon, donc cette eau sulfatée, on fait ça en laboratoire, hein, on peut faire une opération, hein, de réduction, hein, d'oxydoréduction, mais là c'est la nature qui le fait, c'est la nature, ce sont des colonies de bactéries, on a cette chance folle, donc il ne faut pas qu'elles meurent, il faut les protéger, il ne faut pas qu'elles soient contaminées, et ça nous donne l'eau sulfurée la plus forte de France, avec Alvar, hein, nous sommes les deux stations thermales où l'eau sulfurée est la plus forte, hein, mais je vous dis, quand on est dépositaire et gardien d'un tel médicament, hein, eh bien, on a des responsabilités.
Et ça guérit quoi?
Hein?
Ça guérit quoi ?
Ça guérit les voies respiratoires, donc supérieures, ORL principalement, des gorges oreilles, extraordinaire pour l'asthme, extraordinaire pour les sinusites. C'était une eau que nous utilisions beaucoup en rhumatologie. Malheureusement, nous ne pouvons plus l'exploiter et soigner aujourd'hui parce que cette eau devait être coupée. La densité que j'évoquais tout à l'heure, sa puissance en degré de soufre est telle que les applications sur le corps humain sans précaution peuvent conduire à des inflammations. Et puis il y a une circulaire européenne, une directive, c'est pas une circulaire, une directive européenne qui interdit de modifier la composition chimique de toute eau thermale. Donc si vous mettez une eau de coupage, qu'elle soit de source ou de robinet, quoi qu'il en soit, vous modifiez la composition chimique. Et ça, c'est interdit. Donc, à partir de là, nous ne pouvons plus soigner la rhumatologie. On a perdu des milliers de curistes, parce que c'était, en fait, la plus grosse fréquentation. Elle est également indiquée en dermatologie.
Très bien. Donc, ça, c'est l'aspect thermal. J'aimerais qu'on termine notre entretien sur la culture. Vous qui êtes un homme, par définition, de grande culture, professeur, doyen de la faculté de droit, agrégé d'histoire du droit, philosophe du droit, on peut pas, et maire d'Enghien avec la création de tous les équipements, vous annonciez tout à l'heure de nouvelles perspectives, peut-être une nouvelle salle des fêtes, des lieux d'exposition, des lieux de culture, et puis le centre des arts évidemment.
Oui. Nous maintenons le Centre des Arts, évidemment, dans sa vocation d'être une scène nationale d'écriture numérique. Nous avons en ce moment même une exposition parade monstrueuse. Alors, on se dit, qu'est-ce que ça peut cacher Et en fait, c'est la réunion avec une scénographie exceptionnelle de ces objets de théâtre, de cinéma, qui ont été les artifices de l'illusion, de la fiction. Alors, on a commencé par, évidemment, des maquettes. Au fond, on a fait de l'illusion à la Méliès, à l'origine. Ce sont ensuite les relais technologiques qui ont permis par le numérique d'aller alors à l'artifice total, à ce qu'on appelle les effets spéciaux, le Avatar en est par exemple une définition et une démonstration réelle. On crée de l'avatar.
On crée de l'avatar et on crée tellement bien de l'avatar que va se dérouler très prochainement ici même à Enghien les PIDS. Voilà, ça, je crois que c'est important.
Paris Digital Summit, qui est la réunion internationale des grands laboratoires, des grands post-producteurs, donc ces créateurs, ces artistes exceptionnels qui font que le cinéma ne peut plus aujourd'hui en quelque sorte se produire sans des effets. C'est à la fois esthétique, mais c'est aussi une source d'économie, faut penser, par rapport...
Des millions d'emplois dans le monde.
Alors, dans le monde, rien qu'en Île-de-France, l'image c'est 100 000 emplois. Bon, avec les traditionnels studios éclairs qui sont réduits aujourd'hui, mais qui sont toujours à Épinay, on n'est pas loin de chez nous. Nous avons l'école Artefix qui est à Enghien, avec son annexe, notamment avec ses élèves, ses étudiants de master. C'est une réunion où il y a donc la rencontre des professionnels entre eux, l'échange des bonnes pratiques. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelait, c'est toujours d'ailleurs une job fair, donc une sorte de bourse d'emploi et de stages, ce sont des centaines d'emplois, donc pour les étudiants nombreux maintenant, en France et surtout en Île-de-France, les grandes écoles, les Gobelins, les Lumières, Méliès, voilà, donc tout ça, c'est pourront se rencontrer. Et puis pour le public, parce qu'on ouvre aussi au public, il y a de la participation à des conférences, et puis il y aura 3 avant-premières que je dévoile pas. Vous imaginez quel film.
Voilà, on peut imaginer en effet la place que prend l'image numérique ici et au PIDS dans quelques jours. Un très très grand merci, cher Philippe Sueur, maire d'Enghien, vice-président du conseil départemental et philosophe. Quel plaisir de vous entendre. Encore un grand merci. Merci à Francky qui a réalisé cette émission. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle émission entre Chiens. Chien et Loup. D'ici là, portez-vous bien. Merci de votre fidélité et bonne soirée à l'écoute de nos programmes.